Il est 19h, vous écoutez Europe 1. Votre grand journal du soir, émission prolongée jusqu'à 22h avec Mathieu Béliard.
Et avec Marion Calais à la une ce soir, évidemment, les annonces attendues d'Emmanuel Macron.
Oui, un mois tout juste après la fin du grand débat, les premières mesures concrètes dévoilées par le chef de l'État avec des attentes fortes en matière de pouvoir d'achat ou de fiscalité, comme en témoignent ces Parisiens rencontrés par Romain Oquet pour Europe 1.
Il faut arrêter cette pauvreté, diminuer certaines TVA qui sont injustes pour pouvoir avoir accès à certains produits que des gens ne peuvent pas se payer. Des accès au logement plus faciles, moins compliqués, puis bien sûr que monter le SMIC, avant le SMIC c'était un tremplin, un trépied pour pouvoir s'élever, maintenant c'est le contraire.
Il y a des personnes âgées qui ont de quoi vivre, d'autres qui n'en ont pas, donc il faut prendre des mesures pour augmenter les pensions de retraite. Enfin, j'espère qu'il a quand même compris ça.
Idéalement, qu'il annonce une baisse d'impôts et qu'il arrête de toujours viser les mêmes classes, quoi. C'est-à-dire la classe plus ou moins moyenne, quoi. Quand on nous dit que quand on gagne 2000 euros on est riche, je pense pas.
Réindexation des petites retraites, justement, garantie de versement pour les pensions alimentaires, baisse d'impôts pour les contribuables les moins aisés. Voilà certaines des pistes évoquées. Réponse donc dans moins d'une heure maintenant, avant une présentation détaillée. Peut-être deux nouvelles annonces encore mercredi avec une conférence de presse, la première du quinquennat à l'Élysée. Elle était à Strasbourg aujourd'hui, les européennes dans le viseur pour Marine Le Pen qui a présenté le programme du Rassemblement National pour le scrutin du 26 mai prochain. Plus question de Frexit ou de sortie de l'euro, mais une réforme de l'intérieur. Et pour ça, Marine Le Pen compte sur ses alliés à Bruxelles.
Au moment où une nouvelle solution, une nouvelle hypothèse, une nouvelle porte s'est ouverte devant nous, à notre grande joie, à savoir que la situation d'isolement qui était la nôtre sur la scène européenne était finie et que nous voyions émerger à l'époque des alliés avec qui nous pourrions changer profondément l'Organisation européenne de l'intérieur pour présenter cette organisation alternative en réalité à l'Union européenne. Avant, nous n'avions pas beaucoup de choix, nous étions assez seuls. Par conséquent, les deux seuls choix possibles, c'était se soumettre à l'Union européenne ou en sortir. Aujourd'hui, une nouvelle possibilité s'ouvre à nous et il est évident qu'avec le courage qui nous caractérise, il était hors de question que nous lui tournions le dos.
Marine Le Pen au micro Europe 1 d'Adrien Beck. Le sujet sera abordé fin mai en conseil d'administration, celui de la réorganisation d'EDF. Il pourrait être question d'une renationalisation partielle des activités nucléaires, un projet qui dès à présent manque de transparence pour le représentant CGT d'EDF, François Dos Santos.
On a quand même l'impression que les choses se font dans l'opacité la plus totale entre l'Élysée et le président d'EDF. Ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur la feuille de route et qu'elle serait présentée au gouvernement en fin d'année, en décembre. On se rend compte qu'il y a des annonces qui sont faites et qui sortent dans la presse en plein mois d'avril. On fait des demandes répétées, nous notamment dans les instances, pour avoir des explications. On nous dit « vous saurez en juin ». Donc aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu lire, il n'y a aucune négociation. Il n'y a eu aucune rencontre dont l'ordre du jour était la réorganisation du groupe EDF. Sous le prétexte de sauver le nucléaire, on prend le risque de brader l'ensemble des autres activités.
François Dos Santos de la CGT EDF, il répondait pour Europe 1 à Maud Descamps. Ils évoquent une avancée majeure. Des scientifiques de l'université de Tel Aviv vont présenter aujourd'hui un prototype de cœur humain imprimé en 3D à partir de tissus et de vaisseaux provenant d'un patient. Un cœur qui a la taille d'une cerise, autant dire qu'on n'en est pas encore au stade de la greffe, mais malgré tout, le processus pourrait permettre de faire avancer la recherche, selon le chef du service chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Ménaché.
L'objectif, c'est certainement d'utiliser ces systèmes pour, par exemple, tester des médicaments. C'est plus pertinent de les tester sur ces micro-organes qui ressemblent quand même un petit peu à l'organe natif que de les tester sur des cellules de rats ou de souris. Ensuite, ça peut être effectivement des portions d'organes à changer, par exemple pour remplacer une partie défaillante d'un tissu. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Pour autant, il y a un problème majeur qui, à ce jour, n'est pas réglé. Il le sera sans doute un jour. C'est le problème de la taille. Ce petit cœur, il fait 20 mm. Donc, de là à faire en 3D un organe ayant la taille de l'organe réel, ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, reste quand même un objectif à plus long terme.
Le cardiologue Philippe Ménaché avec Aude Vernuccio pour Europe 1. Nouveaux horizons pour le Dakar. Après avoir quitté l'Afrique pour l'Amérique du Sud, le Rally Raid va cette fois s'installer en Arabie Saoudite dès l'an prochain. Et pour 5 ans, un choix qui fait débat après l'affaire Khashoggi, notamment assassinat de ce journaliste en Turquie. Polémique habituelle pour Stéphane Peter Hansel, 13 fois vainqueur du Rally Dakar.
Il y a toujours eu des polémiques autour du Dakar. Il y a les gens qui adorent, qui en rêvent, et ceux qui le détestent. Après, il y a des problèmes géopolitiques dans certains pays. Mais moi, je pense que ASO, l'organisateur, avait différentes options. Et puis après, pas mal de réflexions, à mon avis, ils ont décidé d'aller en Arabie Saoudite pour les compétiteurs, pour les organisateurs. Et peut-être pour l'ouverture du pays, ça va être quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, moi, je ne m'intéresse pas trop à tout ce qui est à côté. C'est plutôt le savoir si on aura une course de qualité au niveau des terrains rencontrés, c'est surtout ça qui m'intéresse.
Stéphane Peter Hansel, joint pour Europe 1 par Axel May. En fait, cette information dévoilée ce soir par les pompiers de Paris, un incendie en cours à Notre-Dame de Paris, la cathédrale, pas plus d'informations. Pour le moment, on y reviendra évidemment dans nos prochains points d'info.
Et on vous retrouve dans une quinzaine de minutes, Marion Calais précisément. Merci beaucoup. 19h05 sur Europe 1, Thierry est en ligne avec nous à Dunkerque ce soir. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir. Oui.
20h. Donc dans 54 minutes maintenant, prise de parole du président de la République. Très simplement, je vous posais la question, qu'attendez-vous ce soir d'Emmanuel Macron ?
Honnêtement, j'attends pas grand-chose. Honnêtement, j'attends pas grand-chose pour différentes raisons. Tout d'abord,
vous allez
parce
l'écouter,
que...
Thierry ? Vous allez l'écouter ?
Ah si, je vais l'écouter. Oui, je vais l'écouter, mais pas lui spécialement. Je vais l'écouter parce que j'ai l'habitude de regarder les infos. Donc forcément, ça va être un incontournable. Mmh. Mais sur la nature des mesures, à la fois sur son ampleur que sur son côté un peu révolutionnaire entre guillemets, j'en attends pas grand chose. Je pense que ça va être des mesures qui vont confirmer la politique qu'il s'était fixée au départ, et que par ailleurs on aura des mesures qui vont aller s'ancrer vers des niches de catégories sociales et non pas sur un projet notamment sur un projet au moins à moyen terme pour l'ensemble de la population française.
Thierry, quand je pose la question, je voudrais quand même être... quand je dis qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron, j'ai eu peut-être un tiers des réponses ce soir qui me disaient j'en attends rien. Mais il y a une part de conditionnel. Qu'aimeriez-vous entendre dans la bouche du président de la République ce soir ?
J'aimerais entendre qu'il change de cap, mais ce serait anti-nature de sa part. Si vous permettez, parce que c'est un exercice difficile que d'essayer de dire beaucoup de choses en très peu de temps, mais je vais essayer de faire au plus simple. Ça vous aura pas échappé que le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché suite à la hausse des prix à la pompe. Mmh. On peut constater aujourd'hui que les prix à la pompe sont aujourd'hui les mêmes que ceux qu'ils étaient au cours du mois de novembre.
Effectivement. Effectivement.
Et ça, c'est suite à une mesure Macron qui avait décidé de ne pas augmenter la taxe, enfin en tous les cas de façon supplémentaire, la taxe sur les carburants. Donc imaginez-vous un peu ce que ce serait devenu si jamais il les avait maintenus. D'une part. Et par ailleurs, pour les mesures qui ont été accordées bien tardivement et un peu contraintes, je rappelle aussi que nous avons eu depuis le début de l'année une augmentation des tarifs des péages d'autoroute, une loi alimentation qui a fait grimper de plus de 10% et notamment fait grimper de 5 euros chaque caddie que l'on fait chaque semaine, que la hausse sur les tabacs, combien même on nous annonce, et je ne sais pas sur quel chiffre on se base, que la hausse sur les tabacs a encore apporté encore plus, voire même des bénéfices records vis-à-vis de l'État sur les cigarettes, qu'on nous annonce bientôt un plus 6% sur les tarifs électricité. Et ça fait redondance par rapport à 8 augmentations successives qui ont lieu en 2018 sur le gaz. Donc je vais dire par là qu'à un moment donné, c'est pas tant l'impôt sur le revenu sur lequel tout le monde se focalise que les gens souffrent, mais c'est sur l'accumulation de taxes, et notamment de taxes sur les dépenses dites contraintes, que là la population souffre. C'est évident, parce que on annonce une augmentation des prix de plus 1,5% à plus 1,8%, avec des augmentations qui sont de l'ordre de 5 à 8% sur des dépenses contraintes.
Merci Thierry. Oui, le pouvoir d'achat, alors évidemment, on a démarré avec cela, et j'espère que l'on entendra parler de pouvoir d'achat, de fiscalité, de ces dépenses contraintes, dès le début de l'allocution du président de la République, parce que c'est clairement la priorité. Simplement, une petite précision, mais ça ne change rien à ce que vous avez dit Thierry, sur la fiscalité, sur le le tabac. Ça vous avez utilisé le mot bénéfice, ça continue de rapporter beaucoup moins que ce que cela coûte à l'État en termes de santé publique. Petite précision, le reste, on continue de discuter, d'échanger avec vous jusqu'à l'allocution du président de la République à 20h, 19h09.
Europe 1.
À suivre l'invité politique ce soir, Geoffroy Didier, directeur de campagne des Républicains pour les Européennes. C'est l'invité de Sonia Mabrouk, ils sont déjà en studio. À tout de suite sur Europe 1.